Vous écoutez Plan B, l'émission du Bistrot Mémoire Rennais, animée par Samia Sider, coordinatrice de l'association.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Plan B, l'émission radio du Bistrot Mémoire Rennais qui vous parle d'un sujet qui nous concerne tous, les troubles de la mémoire. Que vous soyez distrait ou diagnostiqué, aidant ou bienveillant ou tout simplement engagé sur les questions de citoyenneté et d'inclusion, sur Plan B, on partage ensemble les trucs et astuces du quotidien, les relais et ressources sur le territoire et tout un tas d'initiatives inspirantes pour les personnes vivant avec une démence, pour que vous puissiez porter un nouveau regard sur les maladies neuroévolutives. Enregistrement dans des conditions particulières Covid oblige, nous sommes en Plan B dans un studio improvisé. Tout bien portant est un aidant qui s'ignore, c'est l'adage du Bistrot Mémoire Rennais et le thème de l'émission que nous avions envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Pour cette occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir Danielle Dujardin, vice-présidente de psychologie et vieillissement, qui remettra en question ce terme d'aidant qui ne semble pas faire l'unanimité, vous verrez. Alina Jonc-Simenuet poursuivra la réflexion engagée en 2019 par le Bistrot Mémoire Rennais sur la thématique « Venir d'ailleurs, vieillir ici » en allant à la rencontre de Fatira El Aoud, aidante et membre de l'association Mosaïque Bretagne-Maroc. Amandine Bénard prendra le temps de souligner l'importance et le rôle des aidants dans le parcours de soins. À suivre également une interview décalée pour donner corps au débat avec la compagnie Kidam Théâtre. Et parce que être aidant, c'est aussi un parcours du combattant, Anna El-Kadioui El-Idrissi essaiera de nous faciliter la tâche en rendant visible une partie de l'ensemble des dispositifs ressources existants sur le territoire. Danielle Dujardin, vous êtes psychologue en santé publique, co-autrice avec Elisabeth Donnet-Descartes du livre « Évaluer avec les usagers » publié en 2012 aux presses de l'EHESP. Vous êtes également vice-présidente de Psychologie et Vieillissement, association au sein de laquelle vous poursuivez votre engagement pour défendre la parole et le rôle qu'ont les bénéficiaires dans leur parcours d'accompagnement. Bonjour Danielle Dujardin et merci encore d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour.
Alors en 2018, vous avez animé une table ronde qui s'intitulait « Avec les proches aidants » pour le colloque « Complémentarité » organisé par Psychologie et Vieillissement. De cette rencontre, il ressort que ce terme d'aidant est plus subi que choisi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire avec le recul ?
Effectivement, on a invité 5 proches aidants à participer à une table ronde pour pouvoir partager leur point de vue avec les personnes présentes dans la salle et les intervenants. Donc, c'était un colloque organisé en partenariat avec le groupe des neuropsychologues bretons. C'était aussi l'occasion de faire le point sur cette jeune spécialité de psychologue et il nous semblait extrêmement important d'inviter des personnes directement concernées par leurs proches ayant des troubles cognitifs à partager leur témoignage.
Premiers experts de la maladie.
En tout cas, ceux qui ont une expérience et un vécu qui reste parfois enfoui et pas forcément communiqué.
Ce qui ressort de cette table ronde, c'est que beaucoup ne se reconnaissent pas sous ce signifiant d'aidant. Mais, pourquoi, selon vous ?
Alors, de manière extrêmement inattendue, effectivement, le premier point sur lequel ils ont souhaité revenir quand on a fait le point sur ce qu'ils souhaitaient partager avec la salle en préparation, c'était que finalement, ils ne se reconnaissaient pas du tout sous ce terme d'aidant. Et par ailleurs, ils ont aussi remis en cause le titre de la journée qui était « Quand les comportements ne sont plus adaptés ». Il y avait 5 participants qui sont intervenus en tant que conjoint, que fils, que fille ou que mère aussi. Donc, on avait un panel assez représentatif des différents positionnements. Alors, en tant que conjointe, par rapport à ce terme, je suis d'origine libanaise, mais cela fait 40 ans que je suis en France. Et j'ai perdu mon mari il y a presque 2 mois. Il a eu la maladie d'Alzheimer pendant 13 ans. Le mot aidant me gêne. En fait, on n'est pas aidant. Ça nous tombe dessus, on n'a pas choisi, on n'est pas aide-soignante, on n'est pas infirmière, on n'a pas fait des études pour ça, et nous, on a besoin d'aide. Donc, on n'est pas des aidants, on est des accompagnants, des compagnons, on essaye de faire de notre mieux, mais voilà. Moi, le mot me dérange, on me donne une responsabilité que je ne peux pas assumer toute seule.
Et ce mot, il dérange aussi les autres personnes qui étaient là, c'est-à-dire que c'est plutôt un terme qui est subi que choisi, en fait.
Voilà, en tant que fils, par exemple, on est plutôt des accompagnants, des aidants. Aidant, c'est plutôt volontaire, quelqu'un qui décide d'être bénévole, par exemple. Là, on est aidant. Mais là, ça nous tombe dessus, on ne choisit pas. Ou en tant que fille, eh bien, on se retrouve dans une obligation. Et même si j'ai spontanément accompagné ma mère, je ne me considère pas comme une aidante. J'ai mis en place des choses justement pour éviter d'avoir à assumer ce rôle. Alors, je préférerais par exemple le terme aimante.
Aimante, aidant, accompagnant, alors c'est quoi en fait, même si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une sur un mot, sur, la fonction elle reste quand même la même, c'est-à-dire qu'est-ce qui recouvre ce mot aidant, pourquoi on n'arrive pas à s'y reconnaître.
Au final on s'est mis d'accord quand même. Mais c'était leur première réaction, et en creusant un petit peu, c'était vraiment intéressant parce que à partir de leurs expériences et de ce qu'ils ont pu témoigner d'un parcours extrêmement chaotique et bouleversant surtout, ils se sont mis d'accord pour dire que l'intérêt d'une reconnaissance de proche aidant, une reconnaissance au niveau administratif, un terme générique finalement qui définit, détermine une communauté d'individus concernés par une maladie qui laisse tout un chacun démuni. Donc, c'est un terme administratif. Mais ça veut dire que les positionnements qu'ils avaient, ils étaient ailleurs.
C'est-à-dire ailleurs.
Alors, à travers leurs témoignages, on a repéré plusieurs catégories de positionnement, de bouleversement, parce qu'ils ont surtout parlé des bouleversements, des chambardements, que tout un chacun a déjà bien connu. Et effectivement, on a pu identifier clairement trois sphères d'impact des bouleversements. Celui qui concerne la sphère de la subjectivité, qui passe par les émotions, par le ressenti, la perception, qui concerne l'intime, le singulier, celui, le jeu, ce qu'on constitue le jeu. Il y a aussi la sphère du social, celle qui est peut-être la plus facilement identifiable et dont on parle le plus, les repères familiaux qui sautent, les repères culturels, les règles définies, le domaine du public, finalement en quelque sorte. Et ça concerne ce qui relève de la personne dans son positionnement social, dans son registre des usages, des représentations, quand on est fille, quand on est fils, quand on est conjoint. C'est ce qui relève aussi de la relation au groupe d'appartenance. Les trois sphères, elles sont en permanence intriquées en quelque sorte et réinterpellées. Et les bouleversements au niveau administratif jouent un rôle très important parce que c'est aussi un bouleversement vers la découverte de parcours fléchés, de procédures administratives inconnues, du domaine des choses très codifiées, dédiées, et qui les embarquent dans des parcours fléchés qui en permanence réinterrogent les deux autres niveaux. Et effectivement, l'intérêt de se retrouver comme aidant sur le terme administratif fait qu'on se repositionne comme aimant.
Être aidant, c'est un choix, c'est un devoir, c'est un désir.
En gros, la manière dont il le dit, c'est que de toute façon, spontanément, ils vont se mettre à aider la personne, mais ils ne se définissent pas comme aidant. C'est-à-dire qu'ils le font parce que, à la fois, c'est naturel, c'est normal, c'est quelqu'un qu'ils aiment, qu'ils ont envie d'essayer de comprendre. C'est un gros parcours compliqué qui a été assez clairement évoqué. C'est que c'était une co-construction permanente et qu'il n'y avait pas une réponse globale, collective ou qui pouvait. C'est que c'est le cheminement et l'accompagnement et les co-constructions et les moments où il y a une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer, même si c'est toujours extrêmement perturbant.
Et si vous aviez un conseil à donner aux aidants avec le recul que vous avez?
Que se faire aider est largement aussi important que être aidant.
Merci Daniel Dujardin, on vous dit à bientôt parce qu'on sera amené à vous
ressolliciter. Hein. Merci, c'était très intéressant de se replonger dans cette histoire.
Merci.
Et maintenant, la rubrique d'Alina Joncy-Menuet, rien pour nous sans nous.
Bonjour Alina.
Bonjour.
Alors pour cette émission, Alina, vous êtes allée rencontrer Fatira El Aoud qui a accompagné son proche, son père qui malheureusement est décédé. Et cette thématique, on va voir du statut d'aidant, finalement, elle est assez universelle. Peu importe la culture, le pays, en fait, on retrouve les mêmes problématiques.
Oui, tout à fait. Mais avant de vous faire écouter le témoignage de Fatira, aidante d'origine marocaine, je voudrais expliquer à nos auditeurs ce qui a motivé l'association dans la mise en place d'une réflexion collective sur la thématique du vieillissement des personnes issues d'immigration. Selon une étude récente, les trajectoires professionnelles des immigrés vieillissants ont été corrélées aux conditions de vie souvent précaires qu'ils ont connues. Le parcours de vie rompu, l'occupation de l'emploi précaire et physiquement difficile, une moindre connaissance des dispositifs de santé, une approche culturelle qui ne privilégie pas toujours la prévention et bien-être, sont des éléments qui accélèrent le vieillissement précoce d'une partie de cette population. Cela a eu pour conséquence d'affecter durablement leur état de santé et de provoquer leur vieillissement prématuré, ce qu'on appelle l'effet du migrant épuisé. Cette situation s'aggrave encore plus quand il s'agit de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. l'éloignement des dispositifs de prévention retarde le diagnostic et la prise en charge des malades. Si on ajoute à cela la particularité de cette maladie, qui fait oublier aux malades leur langue acquise plus tardivement, souvent donc la langue française, on comprend la difficulté majeure que cela engendre pour leur prise en charge par le service du médico-social. Cette difficulté est également importante pour leur entourage proche, les enfants nés en France et pour le voisinage. Depuis la création du Bistrot Mémoire, les membres successifs de l'association ont observé et souligné l'absence de la population issue d'immigration lors des actions proposées. Ne pas laisser ce public loin des dispositifs de prévention et d'accompagnement pour se préserver de l'épuisement. Ne pas rester seul, comme le souligne Fatiha, une démarche adaptée pour sensibiliser cette population. Mais maintenant, revenons à Fatiha, que j'ai rencontrée pour la première fois dans le cadre de notre projet Venir d'ailleurs vieillir ici en 2019. Écoutons ensemble son témoignage d'aidante d'un père issu d'immigration.
Je m'appelle Fatiha Ilaoud, je suis née au Maroc, d'un père immigré en France depuis les années 60. J'étais toute petite quand mon père nous a ramenés. On est 7 frères et sœurs de 67 ans à 45 ans.
Ils sont tous à Rennes.
Tous à Rennes, oui.
Donc moi, je vous interroge dans le cadre de notre émission sur les aidants. Vous m'avez parlé de votre père,
exactement,
qui avait la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pourriez me dire quelle était la réaction de votre famille, de vos frères, de vos sœurs, à l'annonce du diagnostic de votre papa?
Tout au début, on ne savait pas. On voyait que mon père ne se rappelait pas pas mal de choses. Il devenait très très nerveux. Et c'était le contraire de mon papa, c'était pas ça, c'était pas l'homme qu'on a connu. Et avant qu'il soit déclaré Alzheimer, pendant 4 ans, on va dire 3-4 ans, c'était très très difficile. On ne comprenait pas pourquoi il est devenu comme ça. Et il ne supportait plus personne, il ne supportait plus le bruit. Même nous, on se fâchait, on dit bon, on ne vient plus. C'était un petit peu conflit, c'était un peu très très dur. Mais une fois que ça a été déclaré qu'il était Alzheimer, eh ben c'était très dur. Personne ne l'acceptait.
Donc ça a été déclaré par qui?
Par un neurologue.
D'accord. C'est votre médecin généraliste qui vous a alerté sur la maladie de votre père?
Non, le généraliste, il lui donnait des médicaments, des traitements. Il était soi-disant qu'il devient agressif, tout ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai, ça l'a assommé. Mais quand les filles étaient plus là, ça y est, il recommence. Non, j'ai deux frères qui travaillent dans le milieu médical.
D'accord.
Qu'ils ont cherché un petit peu, en parlant avec leurs collègues et tout ça, qu'ils l'ont proposé de ramener son père chez un neurologue.
D'accord. Et c'est lui qui a déclaré la...
Voilà, c'est lui, ouais. Mm-hmm. Il se rappelait, il sait plus compter l'argent, il sait plus mettre un cas. Il a fait un test.
C'était en quelle année?
2008-2009.
Donc là, vous avez appris, par le mot d'un neurologue, qu'il y avait chez votre père la maladie d'Alzheimer.
La maladie de cerveau.
Dites-moi, comment a réagi votre famille? Quelle était la réaction de vos sœurs, de vos frères?
Ma mère ne croyait pas. Ma mère, pas du tout. Je dis, non, parce que votre père est tout le temps comme ça, un peu dur et tout ça. Ben, le papa, c'était lui de la famille. Hein. C'était mon père, c'est lui le chef de famille. C'était, tu fais ça, et c'est lui, hein, on le faisait. Hein. Mais ma mère, elle a eu du mal à accepter ça. Et nous, y compris, hein. C'était très dur. Des fois, on pleurait. Enfin, moi, j'étais très, très, très proche de mon père. Des fois, je le regardais, je dis, mais c'est quoi cette maladie? On a beau à chercher sur Internet, chez les médecins, pour voir, qu'ils nous expliquent ce que c'est cette maladie. Il y en a un qui a réussi, qui nous a dit une fois, vous savez, c'est comme une bougie. Vous l'allumez, vous la laissez. Ben, petit à petit, elle s'éteint, s'éteint. Mais combien d'années? Ben, ça, on ne sait pas. Mais il n'y a aucun médicament pour ça. On donne juste les médicaments pour... Même pas stable. Maintenant, il y a des médicaments pour stabiliser cette maladie-là, mais il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, il n'y avait pas. Mm-hmm. Juste le médicament pour le chuter, quoi, pour le calmer. Mm-hmm. C'est tout ce qu'il y avait.
Donc, vous avez voulu savoir, vous avez fait vos recherches sur l'Internet, auprès des médecins, et est-ce que vous en avez parlé avec vos frères, vos soeurs?
Oui, on était tous là. Quand j'ai dit où on a cherché,
Tout le monde était engagé.
Tout le monde était engagé, oui.
Alors, ce qui m'intéresserait maintenant dans le cadre de votre famille, comment vous avez mis en place l'aide pour accompagner votre père? Comment ça s'est organisé entre vous?
Alors, on a mis, comme ma maman, elle est un petit peu, elle est âgée aussi. Mon père, quand il a commencé à avoir d'Alzheimer, il avait presque plus de 70 ans. Ma mère, c'est la même chose. Elle n'a pas une grosse santé. Ben nous, on passait, on l'aide comme on peut, les courses, tout ça. Mais ce n'est pas ça. On a fait une demande de l'APA pour avoir une aide à domicile. L'infirmière, parce qu'il veut pas, il refusait de prendre les médicaments. Ce n'était pas possible.
Qu'est-ce qui n'était pas possible?
Eh bien, que la personne s'occupe de lui, sans ses enfants, sans sa femme.
D'accord, donc c'est votre père qui refusait l'aide.
Et refusait, mais il n'était pas conscient. Oh. Ça, quand je vous dis ça, c'était 3-4 ans après
le diagnostic.
Mais il refusait qu'une personne vienne le laver hors dehors de sa femme.
D'accord.
Ça, c'est, vous savez, les personnes âgées de la génération de nos parents, ils sont un peu pudiques. Ils n'aiment pas quand on crée une voie à poil. Mm-hmm. Alors c'était hors de question. Mm-hmm. Et moi, j'allais, parce que comme j'allais tous les jours, j'ai un travail un peu plus souple que les autres.
Donc, votre famille voulait bien chercher de l'aide en dehors de la famille, mais finalement, c'est quand même la famille qui a pris en charge.
Jusqu'au bout.
Parce que votre papa refusait l'aide de l'extérieur.
Manger, parler avec lui, il n'y a pas de souci. Mais une fois qu'on touche son corps, c'est hors de question.
Vous pouvez me dire si parmi le frère et le sœur, vous avez celle qui était plus particulièrement, celle qui accompagnait finalement.
Moi, mon frère, j'ai un frère qui travaille à Pochayo, Moussa.
Et comment ça se fait que c'était à vous d'assumer, entre guillemets, bien évidemment, ce rôle finalement de...
Eh bien, peut-être qu'il se laisse plus faire avec moi, mais pour la douche, c'était encore une autre bataille, pour le laver.
Vous êtes l'aîné, c'est pour ça aussi que vous aviez ce rôle de vous occuper plus de votre père ou pas?
Moi, j'avais le rôle de s'occuper de mes parents depuis l'âge de 15 ans.
D'accord. Et pourquoi vous aviez ce rôle-là?
Parce que ma mère, quand mon père nous a ramenés, elle ne s'est jamais adaptée. Elle était tout le temps malade. Et comme j'avais mes trois frères, les trois derniers, c'est un petit peu moi qui... Sans vouloir, j'arrivais de l'école, j'ai balancé mon cartable, mes chaussures, et puis je mettais dans la cuisine, je faisais ça, mm-hmm. parce que ma mère, elle ne pouvait pas.
D'accord.
J'ai pris le rôle de maman toute jeune, quoi.
Très vite. Et naturellement, vous vous êtes occupée de votre père.
Voilà. Ouais.
D'accord. Est-ce que vous avez, à un moment donné, est-ce qu'on vous a parlé du mot aidant? Est-ce que vous vous êtes sentie aidante de votre père?
J'avais l'obligation de le faire, parce que c'est nos parents. En tant que l'aîné et en tant que musulman, oui.
Vous attribuez à cela aussi une certaine organisation culturelle, familiale.
Voilà, exact. Ouais.
D'accord. Ouais. Vous pouviez quand même compter sur vos frères, sur vos soeurs pour le soutien.
Oui. Ah oui, de ce côté-là, oui. Je répète tout le temps, surtout mon frère Moussa, qui, lui, il était là tout le temps. Mm-hmm. C'est lui, on partageait tout, je partageais tout avec lui.
D'accord, vous avez soutien de votre frère.
Ouais. Ouais. Les autres, ils étaient là, mais ils venaient et regardaient, ils venaient voir leurs parents, mais... Sans plus. Mais c'est nous qu'on avait le rôle de... Moi, j'étais très, très proche de mon père. Peut-être c'est ça aussi. Et il a tout fait pour nous. C'est un nom de... l'envoyer à l'ascenseur. Et je trouve ça normal.
D'être aidante.
Voilà. On va pas le laisser comme ça. Il faut qu'on se mette tous pour aider notre père. Quand toi, t'es pas là, moi, j'y vais. Quand l'autre, il est pas là, l'autre, il va. Et puis, ainsi de suite. C'est pas qu'on n'avait pas le choix. C'est que c'était un devoir. Voilà, c'est le devoir de l'aider nos parents.
Est-ce que vous avez parlé facilement de cette maladie en dehors de votre cercle familial?
Pas au début. Mm-hmm. Pas au tout début. On ne savait pas c'est quoi comme maladie.
Et c'est pour ça que vous n'avez pas facilement échangé avec votre entourage
pas
sur cette
début.
Maladie. Plus facilement, plus tard?
Plus tard, oui. Ouais. Tous les ans, on voit bien que ça descend. Là, c'est vrai, on avait besoin de souffler. Même ma mère, elle avait besoin de souffler. Des fois, on parlait sans quelqu'un nous demande.
Il
fallait que ça sorte, il fallait qu'on vide un peu l'émotion. Même des fois, j'ai pleuré. On avait un père très gentil, très, très généreux. Tout d'un coup, on nous voyait que c'était plus le même, c'était plus notre père.
Et aujourd'hui, votre père est décédé?
Oui.
Il est décédé en quelle année?
Là, il y a un an.
D'accord.
Au mois de mars.
Est-ce que jusqu'à sa mort, il a vécu à son domicile?
Oui.
Donc vous avez pris soin de lui
Juste 3 mois qu'on a fait une demande à la maison de retraite. On est tous d'accord pour nous soulager, nous, et soulager ma mère. Mm-hmm. On avait demandé à ma mère de partir un petit peu au Maroc, parce que pendant 2 ans, elle n'a pas été, d'aller voir sa famille, se reposer, surtout se reposer. Et lui, on l'a mis dans une EHPAD. C'était très difficile.
Donc il est resté 3 mois, mais vous ne gardez pas un souvenir positif de ce passage?
Non.
Et il est retourné à la maison. Et c'était pas trop compliqué pour la famille de l'accompagner
C'était très dur. C'était très dur. Moi, je ne veux pas vous dire que c'était bien. C'est notre père. Mais il y a des moments où on craque. Moi, du moment, je pleure et après, je reviens. Je dis, ça y est, moi, je ne viens plus. Moi, j'en ai marre, là. Tout ce qu'on fait pour toi, et regarde tout ce que tu fais. Tu nous tapes, tu nous engueules, tu nous fous de dehors. Moi, c'est bon, là. Allez, hop, moi, je ne viens plus. Mais au bout d'une heure après, je sors dehors, je prends l'air et je reviens. Et il y a ma mère. J'ai une sœur qui est sur Paris, qui est à centre social. Elle m'a dit, tu peux aller au service. Il y en a un sur Saint-Malo. C'était, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, un truc Alzheimer. France Alzheimer, ouais. On a appelé, il fallait se déplacer, il fallait faire ça. Je dis, trop compliqué. Déjà, on allait tous les jours chez les parents. Alors, quand on se déplaçait à plusieurs reprises, c'était trop compliqué. Pour notre boulot, notre famille à nous, notre travail, c'était trop compliqué pour nous.
Ça ajoutait encore une difficulté supplémentaire.
En plus, ouais.
Donc, vous avez préféré finalement gérer ça à l'intérieur.
On a géré ça nous-mêmes jusqu'à la fin de...
Donc, ça a pris 12 ans.
Puis pas comme nous, n'attendez pas 2, 3 ans, 4 ans pour savoir qu'il y a votre péril d'Alzheimer. Il faut aller taper à toutes les portes. Il faut demander à tout le monde. C'est vrai, il y a Internet, mais il faut y aller dans les associations. Parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup d'associations pour cette maladie-là. Et je dis, il faut y aller, il faut demander, il faut parler.
Il ne faut pas rester seul face à cette
maladie. C'est très dur à prendre ça en charge soi-même. Un petit renseignement de rien du tout, ça peut toujours servir.
Merci beaucoup, Madame El Aoud, parce que c'est un très beau témoignage.
Merci Alina. En effet, on voit que cette problématique, finalement, elle est assez universelle quand on est aidant. C'est le même épuisement. Peut-être en effet une vigilance supplémentaire pour les professionnels qui, en ayant une meilleure connaissance des spécificités interculturelles, notamment, vous le disiez, sur la barrière linguistique, pour mieux diagnostiquer et accompagner. Je pense que ça, c'est en effet un des enjeux majeurs et je pense que l'association saura accompagner les professionnels dans ce sens-là pour qu'on puisse apporter une offre adaptée et ajustée aux particularités de chacun. Merci beaucoup, merci à Fatira pour son témoignage. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avant de retrouver Amandine. Pour la musique, c'est Valentin Leparoux qui nous a concocté une playlist raccord avec le thème. On commence avec un titre qu'il adore de John Lennon, Hold On. C'était Hold On de John Lennon. Vous êtes sur Canal B, vous écoutez Plan B, l'émission du Bistrot et moi Rennais. Amandine, nous avons vu en première partie qu'il était difficile de se mettre d'accord sur un thème, aidant, aimant, accompagnant. Il y a autant de points de vue que d'individus. En revanche, il est possible de s'accorder sur le rôle que jouent les aidants auprès des professionnels de santé.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
Et maintenant, la rubrique d'Amandine Bénard, les troubles de la mémoire, parlons-en.
En tant que psychologue au sein de l'association du Bistrot Mémoire Rennais, je côtoie régulièrement des proches aidants, mais j'ai également l'occasion de les rencontrer sur mon deuxième lieu de travail, qui est l'hôpital de jour de gériatrie au CHU de Rennes. Alors, quand une personne elle vient en HDJ, Elle va rencontrer différents professionnels. Donc, il y a le gériatre, mais il peut y avoir aussi l'ergothérapeute, l'assistante sociale, la diététicienne. Et on peut aussi réaliser des examens type IRM ou scanner, qui sont organisés sur une journée ou une demi-journée. Et moi, en tant que professionnelle, j'interviens dans ces journées, c'est-à-dire j'évalue les capacités cognitives, c'est tout ce qui est en lien avec le cerveau. J'évalue aussi le comportement, l'aspect psychologique de la personne au travers de son discours, de sa plainte et de tests de mémoire ou d'attention. L'objectif de l'HDJ, c'est une participation dans l'élaboration d'un diagnostic qui sera plutôt à visée médicale, dans le cadre par exemple là, d'une maladie neuroévolutive, et surtout de contribuer à la conception d'une prise en soins qui va être adaptée à chaque personne. Je rencontre donc les patients, mais également leurs proches. Lors de notre émission précédente, le docteur Frouard, neurologue, avait souligné le fait que le début des maladies neuroévolutives était insidieux, et surtout dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Et donc les conjoints et les enfants sont les premiers témoins des changements dans le quotidien, comme en témoignent Frédéric et Guylaine au travers de ce court extrait.
En fait, elle se plaignait assez plein qu'elle était fatiguée au travail. Elle disait « Ouais, j'en peux plus, je suis vraiment submergée ». À la maison, c'était dans les fêtes de famille où elle ne reconnaissait peut-être pas une personne ou des fois elle disait des trucs un peu qui étaient de travers. Donc ça faisait rigoler les gens parce que parce que c'est des petits détails, quoi. Donc ça, c'était les premiers signes où on n'y fait pas attention parce que les gens peuvent être fatigués, faire un impair, etc. Après, c'est au niveau du travail, elle disait qu'elle était de plus en plus fatiguée, qu'elle n'en pouvait plus.
C'est vraiment le fait qu'il ne se rappelle jamais quand je lui disais trois fois dans la semaine ce week-end, on a invité là, ou alors il y a un tel et un tel qui vient manger, il ne se rappelait jamais. C'est surtout ça, en fait. Et puis après, ça m'a inquiété parce qu'il perd tout, il perdait ses affaires, il oublie toujours son téléphone quelque part, après c'est les clés.
Nous venons d'entendre Frédéric et Guylaine, des aidants, qui ont été témoins des premiers symptômes chez leur conjoint. Les proches sont aussi le plus souvent à l'origine de l'entrée dans le parcours de soins, en invitant la personne malade à consulter ou en allant alerter le médecin traitant. Leur rôle est donc dès le début important. Écoutons d'ailleurs le court témoignage d'Edith.
Il y a des passages qui semblent étonnants. Alors on dit, oh, c'est un problème d'inattention. Et puis, bon, la vie reprend un cours tout à fait normal. Et puis, à nouveau, cette période dite d'inattention se reproduit. On se trompe de jour, on utilise un mot pour un autre, etc., etc. Et puis ces moments se rapprochent. Et donc là, je m'inquiète près de notre généraliste. Enfin, je m'inquiète. Je dis, mon mari a des soucis, il a des troubles, des trous de mémoire, les mots, il les échange, etc. Et notre généraliste me dit, oh écoutez, et ça il paraît que c'est très fréquent, les généralistes ont souvent ce type d'attitude, oh mais non, 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 vous savez, en vieillissant, tout le monde ne vieillit pas de la même façon, non, non. On n'est pas crédible dans un premier temps. Donc j'ai tellement insisté qu'elle a fini par accepter l'IRM. Donc là, l'IRM n'était pas bon et on m'avait dit, ne vous contentez pas de cela. D'où ma demande de visite près du professeur Béliard. Là, mon mari a eu une injection d'un produit radioactif qui a permis une lecture du cerveau très précise et le diagnostic a été donc confirmé très officiellement.
Amandine, les aidants sont la pierre angulaire dans le parcours de soins ?
Effectivement, leur présence et surtout leur parole est importante. Pour ma part, ma réflexion à l'issue des consultations, elle se nourrit du regard de ses proches. C'est pour cela que lors des différents moments, donc que ce soit avec le gériatre, l'assistante sociale ou donc moi-même la neuropsychologue, la présence du proche, elle est sollicitée. Parfois, ils ne peuvent pas être présents en raison de différentes contraintes. Dans ce cas, j'invite les aidants à partager leurs observations sur la situation, par mail, par écrit ou par téléphone. Certains proches ne comprennent pas pourquoi ils doivent être présents, car souvent ils nous disent « ce ne sont pas eux qui sont malades ». Mais je vais tenter de vous faire comprendre l'importance de la place de l'aidant dans le parcours. Alors, comme on l'a dit précédemment, ce sont les premiers témoins. Ils sont donc une source d'information qui va être certes complémentaire à celle du patient et sur les difficultés qui sont naissantes, comme on a dit, sur leur retentissement sur le quotidien actuel, mais ils vont aussi pouvoir nous informer sur le passé de la personne, son histoire de vie, son tempérament ou son caractère, ses liens sociaux. Il est important pour comprendre la situation d'avoir une vision un peu plus globale avec le point de vue du patient et bien sûr celui du proche. Une annonce diagnostique peut également être réalisée en présence du médecin neurologue ou gériatre à l'issue de ses consultations. Et dans ce contexte, il est important d'avoir un proche qui va être là aux côtés de la personne malade pour pouvoir le soutenir et bien sûr aussi pour qu'il y ait deux personnes qui puissent être présentes et comprendre tout ce qui va se jouer à ce moment-là. Lors de ces différentes consultations, de nombreuses informations vont être transmises par les différents professionnels de santé. Il est donc important d'avoir plusieurs écoutes, plusieurs oreilles pour pouvoir retenir un maximum d'informations. Et donc là, le rôle du proche va être aussi un rôle de messager pour pouvoir rendre compte par la suite de tout ce qui sera dit pendant ces consultations aux autres membres de la famille. Au cours de l'évolution de la maladie, le patient il va avoir besoin aussi d'une prise en charge qui va être de plus en plus à adapter en ajustant son domicile et l'intervention des aides. Le proche, lui, il est le plus souvent celui qui va initier ce plan d'aide, mais qui va aussi par la suite le coordonner. Il est donc l'interlocuteur privilégié et va être l'acteur fondamental pour les différentes démarches, notamment administratives.
Ce parcours peut être complexe et encore plus compliqué selon leur profil. Il y a celles et ceux qui sont encore en activité ou âgés et ou patients eux-mêmes concernés par une maladie chronique. D'ailleurs, les études sur la qualité et l'espérance de vie des aidants ne sont pas très rassurantes. Au-delà de leurs multiples casquettes, secrétaire, aide à domicile, taxi, cuisinier, y a-t-il une prise en compte de leur état de santé en consultation, Amandine ?
C'est vrai que pour le moment, je ne me suis intéressée qu'au rôle du proche aidant auprès de la personne malade. Mais la présence du proche aidant lors de la consultation, elle est aussi importante pour le proche lui-même. C'est lors de ces rencontres que l'on s'intéresse au vécu du proche, à son état, voire sa souffrance psychologique face à des événements qui, pour la plupart, les dépassent. Ces lieux sont aussi l'occasion de pouvoir partager avec des professionnels de santé qui vont pouvoir les soutenir, les conseiller et puis les orienter. Il est important que les aidants puissent se saisir de ces consultations. Et s'ils ne souhaitent pas être présents ou parler en présence de la personne malade, il ne faut pas hésiter à le signaler pour que le professionnel puisse leur accorder un petit moment à part, que ce soit en présentiel ou même par téléphone, comme je le disais précédemment. C'est aussi lors de ces consultations que nous, en tant que professionnel, on va faire prendre conscience aux proches que certes, ce ne sont pas eux qui sont malades, mais ces maladies neuroévolutives vont continuer donc à évoluer et impacter de plus en plus leur quotidien à eux aussi. Leur présence, elle est importante pour qu'on puisse les prévenir d'un risque d'épuisement et insister sur le fait qu'ils ont eux aussi besoin d'aide.
Vous écoutez Plan B, l'émission du Bistrot Mémoire Rennais sur Canal B.
En effet, au cœur de ces maladies neuroévolutives, avec une évolution longue et lente, les dents deviennent progressivement la béquille de la personne malade. On va même plus loin, on peut verbaliser jusqu'au fait que si les dents n'étaient pas présentes, le maintien à domicile serait très précaire, voire dans certaines situations impossible. J'ai d'ailleurs pu observer que pour les personnes malades isolées qui n'ont pas des dents familiaux, le maintien à domicile, il est très difficile. On est obligé de faire appel à un ou à plusieurs aidants professionnels, ça peut être des infirmiers, des auxiliaires de vie, qui vont pouvoir assister ces personnes malades, même jusqu'au que dans les consultations en transmettant des informations.
Donc ça, Amandine, on peut s'autoriser quand on est aidant à solliciter directement ou indirectement, que ce soit par écrit, le professionnel de santé pour lui faire part aussi de son vécu. C'est même recommandé finalement.
Tout à fait. On est toujours, nous, en tant que professionnels, avides d'avoir des informations sur le quotidien que nous, on n'a pas du tout conscience de notre point de vue extérieur.
Même sur son état d'épuisement en tant qu'aidant, ça permet peut-être de prioriser aussi les prises en charge ou les réorientations. Parce qu'on a vu cet état de santé, finalement, c'est les aidants qui prennent aussi beaucoup de risques en décalant leurs soins ou en s'oubliant.
D'ailleurs, une enquête de l'Association française des aidants rapporte en 2016 que 48% des aidants déclarent avoir des problèmes de santé qu'ils n'avaient pas avant d'être aidants. Florence Lutzmann, inspecteure générale des finances en 2010 et qui était en charge du pilotage du plan Alzheimer, rappelait à cette époque que le risque relatif de mortalité de l'aidant lors des trois premières années de la maladie était majoré de 60% par rapport à celui des non-aidants du même âge. La personne malade n'est donc pas la seule victime de ces maladies. C'est pour cela qu'à ce jour, il existe de nombreux dispositifs qu'on appelle des dispositifs de répit qui vont offrir aux aidants du soutien, de l'écoute ou tout simplement du temps. Nous y reviendrons un peu plus tard dans la chronique d'Anna. Dans tous les cas, ce qui est important de retenir, comme l'avait souligné d'ailleurs précédemment Fatira, c'est qu'en tant qu'aidant, aidant, il ne faut pas rester seul à porter la personne malade. La même enquête de l'Association française des aidants rapporte que 50% des aidants ne parlent pas des difficultés liées à leur rôle d'aidant avec les professionnels de santé. Alors, nous avons tous nos limites, il faut savoir les reconnaître et les accepter pour pouvoir se tourner vers les professionnels, les associations, ou toute personne qui pourront nous seconder et nous apporter leur aide.
Oui, on l'a vu d'ailleurs avec Daniel Dujardin, il y a différentes sphères sur lesquelles on peut solliciter une aide particulière, donc c'est important de pouvoir bien les identifier pour faire appel aux bons professionnels. Il faut savoir aussi s'autoriser à partager ces difficultés, et justement, on retrouve Morgane Soularue, notre journaliste cobaye, pour cette interview décalée de Christine et Alban de la troupe Kidam Théâtre. Elles vont nous raconter comment elles sont entrées dans les danses.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale. Nous recevons Christine et Alban. Bonjour Christine, bonjour Alban.
Bonjour.
Vous êtes sœurs.
Oui, c'est moi la plus jeune.
Merci d'avoir accepté de témoigner pour cette émission radiophonique.
Si ça peut aider.
Oui, vous vous occupez toutes les deux de votre mère qui vit chez elle, mais qui a besoin d'une présence importante pour les repas, la toilette, l'habillage, car elle a perdu en autonomie.
Oui, voilà, elle a perdu en autonomie. Oui, elle fait face à des problèmes de mémoire de plus en plus importants.
Oui,
des difficultés cognitives, nous disent les médecins. Elle ne peut plus se débrouiller seule chez elle. Et les professionnels qui viennent, infirmières, aides de vie sociale...
Ils font leur maximum.
Oui, enfin, ils ne suffisent pas. Notre mère a besoin d'une présence presque constante.
Et nous souhaitions faire cette émission pour vous demander comment êtes-vous devenues toutes les deux aidantes de votre mère. Comment, en somme, osons ce néologisme, comment êtes-vous entrées en aidance?
Eh bien... Notre mère refuse d'aller dans un établissement. Il n'y a que des vieux là-dedans. Elle répète ça tout le temps.
Oui.
Sans compter Rex, son chien. Elle ne le quitterait pour rien au monde.
Ouais, hein.
Oui, elle dit qu'elle ne pourrait pas se passer de ses sauts de joie, de ses petits aboiements à chaque fois qu'elle rentre chez elle. Avec lui, sa maison n'est pas vide. J'allais dire quelqu'un l'attend. Et puis, c'est vrai que Rex ne pourrait pas l'accompagner en établissement. Hein.
Bah oui, ça on peut le comprendre, hein, que le chien ne puisse pas aller dans les établissements, même si ce chien est son premier aidant, en somme.
Oui, oui, en quelque sorte, on peut dire ça, oui. Et puis finalement, cette entrée en aidance, comme vous dites, c'est faite petit à petit, sans que nous nous en apercevions vraiment. T'es d'accord, Alban ?
Oui, c'est ça, oui.
À un moment, notre mère n'a plus pris sa voiture, alors on l'a emmenée à tour de rôle, là où elle avait besoin.
Oui, ensuite, on l'a accompagnée régulièrement au marché. Ça, c'était plutôt sympa.
Oui, hein. C'est vrai.
Oui, on la découvrait sous un nouveau jour, ce qu'elle aimait acheter à manger, comment elle était à peu près de ses sous aussi. Hein.
L'emmener donc faire ses courses, lui permettre de sortir avec cette surprise d'acheter... des choses qui font plaisir, à quoi on ne pensait pas forcément. La vie, en somme, la vie, quoi.
Bah oui, la vie, quoi. Disons-le, on a apprécié ces premiers temps d'aidance. On rencontrait notre mère autrement. Je dirais même qu'une nouvelle complicité émergeait, même si l'évolution de sa maladie nous préoccupait toujours.
Et puis, il y a eu ce jour où elle est sortie seule de chez elle, à pied, hein. Lorsque je suis arrivée, elle n'était plus dans la maison. Je ne vous dis pas la panique. C'est un voisin qui l'a ramenée. Elle était à plus d'un kilomètre, hein, sur la place du village. Et elle semblait complètement perdue.
Ça a été difficile, angoissant.
Oui, plutôt angoissant.
Ouais.
Je dirais même une sacrée frousse.
Oui, une sacrée frousse. Ouais. Là, c'est vrai que les choses ont basculé. Elle ne s'est jamais vraiment remise de cet événement. Et à partir de ce moment-là, son état de santé s'est dégradé. Je crois que c'est là que je suis devenue aidante, quand j'ai commencé à avoir besoin de la rassurer et de me rassurer. Je commençais à avoir peur pour elle.
Et aujourd'hui, comment vous organisez-vous concrètement ?
Eh bien, nous venons à tour de rôle, ma sœur et moi, une fois chacune par jour.
Oui, soit le matin,
soit l'après-midi.
Voilà.
Le repas, l'habillage, la toilette... J'avoue que de m'occuper de ma mère ainsi, comme d'une petite fille, hein, ce n'est pas toujours facile. Je n'y étais pas préparée, moi. Pas préparée à devenir une aidante. Et après ces 2 années, j'ai encore un peu de mal. Je suis encore un peu, comment dire, déstabilisée. Lui donner à manger, l'aider à l'habiller, m'occuper d'elle pour des gestes encore plus intimes. la toilette ou autre. Je me voyais pas du tout débarbouiller ma mère, moi. Mais bon, je prends sur moi.
C'est devenir la mère de sa mère, d'une certaine façon, redevenue elle-même enfant. C'est assez troublant pour ma part, et j'imagine que c'est le cas pour beaucoup d'auditeurs. Je ne sais pas si je réussirais.
Et vous avez raison de dire ça. Hein. On ne sait jamais si on va réussir à tenir ce rôle. Et combien de temps ? Car il y a de multiples contraintes, évidemment. Hein. La première est le temps. Nous passons beaucoup de moments avec notre mère. Du coup, nous voyons moins nos amis, nous sortons moins souvent. Nous nous isolons.
Oui, oui, d'accord, mais enfin bon, avec une bonne organisation. Et puis, chacune de nous continue à travailler.
Enfin, c'est ton point de vue, Christine. Excuse-moi, mais enfin, moi, je ne supporte plus que nos deux vies tournent autour de l'état de santé de maman. Tournent autour de sa perte d'autonomie. Et que nous nous isolions, l'une et l'autre, d'ailleurs. Cette maudite perte d'autonomie prend toute la place. Elle dicte sa loi, tiens. Rien que ces piles de médicaments hein, qui envahissent chaque endroit de son logement. Il nous rappelle que les troubles de notre mère sont là, et bien là, qu'ils s'imposent, sans discussion. Je les hais, ces troubles, oui. Je les hais.
Alban, vous êtes très éprouvée par tout ça.
Oui, sans compter l'emploi du temps. Hein. Vous savez, il y a l'heure de l'infirmière, et puis il y a l'heure du kiné, et puis il y a l'heure de la toilette, et attention d'être bien à l'heure en plus. Sa perte d'autonomie occupe tout le quotidien. Sans parler des inquiétudes, des angoisses qu'elle appelle. Elle nous préoccupe. Tout est fait en fonction d'elle. Tout se réduit à elle. Je vous l'avoue, à certains moments, je me sens au bout du rouleau. Je ne peux plus y aller tous les jours. Je suis épuisée moralement. Et je crois que pour tout ça, j'ai du mal à accepter ce rôle. Aidante. Et je vous l'avoue, si on m'avait informée de tout ce qui l'obligeait, je ne m'y serais peut-être pas engagée.
Excusez-nous, Alban, je n'imaginais pas, en vous invitant dans cette émission, que votre histoire vous chamboulait autant. Si vous voulez, on peut...
Non, merci, ça va aller, c'est juste une petite émotion. Un léger trop-plein, mais... Non, merci, ça va aller.
Alban, tu m'avais jamais dit que tu souffrais autant, que tu étais autant épuisée. Bah écoute, Alban, tu fais toujours bonne figure.
Oui, enfin, excuse-moi, mais parfois, on est bien obligé de la faire, hein.
Ah, mais tu peux pas me lâcher, hein. Tu peux pas me lâcher, là, maintenant. Tu peux pas me laisser seule. Je vais jamais y arriver, moi, toute seule. Et pense à notre mère. C'est tout de même elle qui nous a élevées, toutes les deux. Notre père est mort quand nous étions très jeunes. Mais pense à tout ce qu'elle nous a donné. Et tout ce qu'elle a sacrifié pour nous, pour nous offrir une belle vie. Notre devoir est de nous occuper d'elle. Alban, je te croyais pas comme ça. Ah non, pas toi, pas ma sœur.
Christine, accompagner, devenir aidante de notre mère n'est pas une question de devoir, mais de désir.
Merci, merci beaucoup, mesdames, pour ce témoignage. Je crois que nous allons en rester là, vous laisser maintenant. Vous avez sans doute beaucoup de choses à vous dire.
Oui, on est désolés. Hein. Vous savez, devenir aidante, bah, comme vous le voyez, ça peut modifier beaucoup de choses, et en particulier dans les relations familiales.
Et lorsqu'on entre en aidance, eh bien, et c'est ce que je retiens, on n'est pas forcément conscient au départ de tous les enjeux qui y sont liés, et d'une certaine manière, peut-être qu'heureusement d'ailleurs. Mais il faut faire avec.
Ouais, c'est vrai, Alban. On doit faire avec.
Eh bien, merci infiniment en tout cas à toutes les deux. Je conclurai par la question qu'au final vous posez. Devenir aidant, est-ce une question de devoir ou de désir ?
Merci à la compagnie Kidam Théâtre pour cette représentation radiophonique. Bravo Morgane Soularue, vous avez passé votre audition d'improvisation avec brio. C'est net, plutôt réaliste, non? N'hésitez pas à commenter ou partager votre vécu sur l'entrée en aidance, une adresse toujours la même, planb@bistromemoirerennais.com.
Vous écoutez Plan B, l'émission du Bistrot Mémoire Rennais sur Canal B.
On marque une pause musicale, toujours sur les conseils de Valentin Leparoux. On écoute The Link is About to Die du groupe féminin Los Bichos. Los Bichos avec leur titre The Link is About to Die. Vous écoutez Plan B, vous êtes sur Canal B, c'est l'émission du Bistrot et moi Rennais. On retrouve enfin Anna El-Kadioui à l'Idrissi. Bonjour Anna, comment allez-vous ?
Bonjour Samia, ça va bien, merci.
En forme dans ce contexte un peu inédit, cet enregistrement qu'on dit un peu expérimental, hein, les studios étant fermés, on est tous à distance. Vous nous excuserez pour ces sons qui ne sont pas au top, mais on fait au mieux, on arrive quand même à garder le lien. Alors Anna, qu'il s'agisse de droit, de devoir ou de désir, l'effet reste le même, l'épuisement. Nous l'avons évoqué en deuxième partie d'émission, la problématique des aidants est un enjeu de santé publique.
« Et maintenant, la rubrique d'Anna El-Kadioui El-Idrissi, Santé publique, on vous dit tout.
Alors Anna, quelles sont les solutions qui existent pour prévenir ces situations d'épuisement ?
Avant d'entrer dans les détails, il faut savoir qu'aujourd'hui, 2/3 des malades d'Alzheimer vivent à domicile. Et ce maintien en domicile repose principalement sur les aidants, ce qui représente en moyenne une 60aine d'heures par semaine. Comme nous l'avons vu avec Amandine, les aidants peuvent s'oublier et exposent ainsi leur santé physique et psychologique dans cette démarche. C'est pour cela qu'avec le temps, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place. Ils sont nombreux et sont souvent méconnus. Je vais ici vous présenter brièvement un certain nombre d'entre eux, qu'on peut diviser en 4 grandes catégories. Je m'excuse d'avance de ce listing à la Jacques Prévert. Nous l'avons vu, être aidant est un travail à temps plein à durée indéterminée, qui nécessite un réaménagement du quotidien, des habitudes, de sa vie de manière générale. Pour accompagner les aidants dans ce parcours, il existe des programmes de formation et d'éducation des aidants. Ces formations sont gratuites et abordent différentes thématiques, comme la gestion de la vie quotidienne, les connaissances de la maladie pour accompagner au mieux la personne, ou encore la communication. Sur le territoire rennais, elles sont dispensées par différents acteurs, comme l'association France Alzheimer, le dispositif Cluedo, la plateforme de répit et d'accompagnement, ou encore le centre de prévention Bien Vieillir. La deuxième aide qui me vient à l'esprit est le soutien psychologique afin de soutenir les aidants. Ils peuvent se faire individuellement ou en groupe et sont proposés par diverses structures. La plateforme de répit, des associations comme ce qui est proposé par le Bistro Mémoire Rennais ou encore au sein des hôpitaux. D'ailleurs, Amandine, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est dans ce cadre-là que vous rencontrez les aidants dont vous nous avez parlé en début d'émission ?
Pour ma part, les aidants que je rencontre, c'est toujours en lien avec la personne qui est malade. La personne qui est malade est le patient que je rencontre. Et après, je peux rencontrer le proche aidant. Mais pour un soutien psychologique individuel pour les aidants, il existe d'autres psychologues au sein de l'hôpital de jour, mais au sein de l'hôpital qui peuvent les rencontrer.
Merci pour toutes ces précisions. D'autre part, pour poursuivre mon petit listing, les aidants ont également droit à ce qu'on appelle du répit, c'est-à-dire des temps où la personne accompagnée est en structure, soit en accueil de jour ou en hébergement temporaire. Ces temps, très rares dans un quotidien d'aidant, lui permettent de se reposer, de prendre du recul ou de faire des activités qu'il ne ferait pas sans se préoccuper pour son proche. Pour information, il y a possibilité d'avoir une aide financière si la personne accompagnée possède l'allocation personnalisée à l'autonomie, appelée APA dans le jargon administratif français. Il s'agit d'une aide de prise en charge quotidienne afin de payer les dépenses nécessaires pour permettre aux personnes malades de rester à domicile en mettant en place des services pour compenser cette perte d'autonomie. Ça peut être par exemple des services d'aide à domicile ou des soins à domicile. Ce que je voulais préciser par rapport à cette aide, c'est que si l'aidant accompagne une personne bénéficiant de l'APA, ce dernier peut bénéficier, si le plafond d'aide est atteint, a déjà été atteint, d'une aide supplémentaire de 500 € pour faire appel à ces dispositifs de répit. Néanmoins, il y a des nuances et certaines conditions, comme par exemple la présence doit être indispensable au domicile de la personne aidée et celle-ci ne pouvant pas être remplacée par un professionnel. C'est beaucoup de cas par cas, ce qui peut rendre un peu difficile l'accès à tous ces dispositifs et peut conduire au non-recours par les usagers. Cette difficulté est commune aux prochains dispositifs. Donc, il s'agit du congé des proches aidants. Ce congé permet de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie. Il est accessible sous condition d'avoir un lien familial ou étroit avec la personne aidée et est alloué pour une durée limitée. 2-3 mois renouvelables sans pouvoir dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié. Là encore, c'est un dispositif qui est récent, assez méconnu et complexe à mettre en place. Ce qui a également été soulevé par certains aidants est la lourdeur des dossiers à monter à chaque fois pour bénéficier d'un dispositif qui peut d'un côté faire peur et donc retarder le lancement des procédures ou d'un autre côté arriver trop tard du fait des délais entre le dépôt de la demande et son obtention. Je vous propose d'écouter un extrait d'un entretien de Frédéric qui en témoigne.
Là, le congé aidant, par exemple, le gouvernement a fait une grande pub, donc c'est 4 fois 3 mois, 1 an sur votre carrière. Et en fait, on m'a dit, bah, c'est renouvelable. Alors, au début, on savait, enfin, c'est pas que c'est renouvelable à la suite. Et je regarde ça, et en fait, quand on va sur le truc du gouvernement, on s'aperçoit que c'est 66 jours rémunérés. C'est pas 1 an, hein. C'est 66 jours sur les 1 an. Alors que quand ils le présentent, et tout est un peu comme ça, tout est compliqué, tout est un peu... Voilà, il faut creuser, il faut se renseigner, faut... Il n'y a jamais une personne qui... On a l'impression qu'il y avait une personne qui sait à peu près... On a le rendez-vous et on va dans la structure, même s'ils l'apprennent, je pense que ça ne va pas durer éternellement, parce que faire de la cuisine, se promener, etc., ça devient dur, quoi. Là, en se promener, il faut lui tenir la main, elle n'est plus du tout indépendante, quoi. Donc, je sais même pas si ça va coller. le programme qu'ils ont. Mais pour faire le dossier, il faut d'abord faire le dossier auprès de la MDPH. Il faut que la MDPH soit d'accord pour qu'on soit admis par le système. Il faut après faire le dossier médical pour avoir un dossier médical pour pouvoir entrer dedans. Et après ça, il faut que eux acceptent le dossier, qu'ils passent en commission, qu'ils soient acceptés en commission par eux, parce qu'ils sélectionnent. Et une fois qu'on est sélectionné, il faut qu'ils aient de la place de libre.
C'est une démarche administrative extrêmement lourde.
Alors on se retrouve avec des dossiers partout et faut compter presque 2 ans avant qu'entre le moment où... De toute façon, tout ce qu'on entreprend entre le moment où on commence à l'entreprendre et le moment où on y arrive, ça prend des temps qu'on n'y pense même plus quand les gens vont en contact. Des fois, on dit « Ah oui, j'y comptais plus. » Tout est un peu comme ça, quoi. Mm-hmm. Que ce soit pour l'administratif ou pour la maladie. Parce que pareil, dès qu'on demande un truc pour la maladie... Entre le moment où on le demande et ça arrive, on est toujours d'avoir un métro de retard. Mm-hmm. C'est toujours l'aide arrive ou ce qu'on met en place. Une fois que c'est là, généralement, entre le moment où on le demande, le moment où ça se monte et le moment où ça arrive, quand c'est en place, c'est très rapide à ne plus être pérenne, quoi. C'est trop tard.
D'accord, l'aide n'arrive pas suffisamment tôt.
En fait, dans cette maladie, on a toujours l'impression que il y a une retenue d'informations par rapport à ce qui va se passer. Et du coup, on vous donne les cartes au moment où on est face au mur. Et quand on met en place le truc, et ben la maladie est déjà en train de gagner une nouvelle étape. Et il y a toujours cette impression de retenue. Quoi, du corps médical. On ne veut pas vous faire paniquer. Du coup... on ne vous expose pas les choses.
Nous l'avons vu, ce décalage dans le temps ajoute de la précarité à de la précarité. Selon Frédéric, les dispositifs arrivent toujours trop tard et ne sont pas synchrones avec l'évolution de la maladie qui semble, dans ce cas, évoluer beaucoup trop vite. Amandine et Samia, je m'adresse à vous qui êtes psychologues. Comment est-ce qu'on pourrait mieux préparer les aidants et les former à l'évolution de la maladie? Comment est-ce qu'ils pourraient anticiper pour bénéficier du bon dispositif au bon moment? Quels conseils auriez-vous? Si moi je suis aidante et je vous écoute aujourd'hui.
Eh bien, comme on l'a cité précédemment, c'est vrai que toutes les informations qui vont être transmises, ne serait-ce que par les professionnels de santé ou par des formations auxquelles on peut assister, toutes ces informations, elles sont vraiment à noter et à garder précieusement. Même si on n'a pas l'impression qu'on doit les utiliser tout de suite, moi ce que je conseille, c'est quand même de mettre en place tout ça très rapidement pour pouvoir anticiper le plus tôt possible. Même si on a l'impression que notre personne proche malade n'est pas au stade de pouvoir utiliser tel ou tel dispositif, il faut quand même faire tout en amont. Ça demande un peu d'anticipation, c'est sûr, c'est difficile de s'en rendre compte, mais c'est quand même quelque chose d'important.
Et pour compléter sur ce que disait Amandine, moi j'invite vraiment les aidants, c'est important de pouvoir faire ces formations qui parfois peuvent venir en plus, parce que c'est du temps et on peut être fatigué déjà au quotidien et aller se former une journée ou une demi-journée, ça peut nous paraître du coup insurmontable. Mais c'est important parce que c'est des lieux aussi où vous aurez accès à tout un tas d'informations, de dispositifs ressources et où vous pourrez justement visualiser et anticiper les étapes à venir, notamment sur comment être très précis, sur les évaluations à pas, parce qu'on sait que c'est important d'expliquer vraiment au quotidien et de façon très exhaustive ce qu'on fait ou ce que la personne ne fait plus.
Le maître mot, donc, serait anticipation.
Oui, en effet, et l'anticipation, on voit bien que c'est compliqué d'anticiper, parce que quand on anticipe sur ces maladies neuroévolutives, forcément, on anticipe le pire, mais c'est justement l'enjeu. Cette anticipation, elle peut se faire sereinement et accompagnée, c'est ce que disait Amandine, il y a tout un tas de professionnels qui peuvent venir avec vous, baliser et sécuriser le terrain, et plus on anticipera, moins on aura à gérer des situations d'urgence et d'épuisement.
Tout à fait.
Merci pour tous ces éclairages, Samia et Amandine. Nous avons abordé de nombreux points, rassurez-vous, vous pouvez vous faire accompagner dans ces démarches en vous orientant vers les différents acteurs sur le territoire rennais, comme le CLIC, le Centre local de l'information et de coordination, la Maison des aînés et des aidants ou la plateforme d'accompagnement et de répit. Vous trouverez également toutes ces informations pratiques que nous avons partagées aujourd'hui sur notre site internet.
En effet, on mettra tous les liens sur le site internet et tous les dispositifs qui existent et ceux qui sont aussi le plus près de chez vous.
Vous écoutez Plan B, l'émission du Bistrot Mémoire Rennais sur Canal B.
Plan B, c'est terminé. Merci à toutes et à tous. Si vous souhaitez poursuivre ou réagir à l'émission, nous proposer d'autres thèmes, toujours la même adresse, planb@bistromemoirerennais.com. Merci au collectif du Bistro Mémoire Rennais, Guylaine, Edith, Fatira et Frédéric pour leur témoignage, nos partenaires de toujours, Kidam Théâtre. Psychologie et vieillissement, merci à Daniel Dujardin pour sa présence, à Valentin Leparou pour sa playlist. On se retrouve bientôt avec plusieurs acteurs du territoire pour échanger sur les différents dispositifs qui existent près de chez vous. En attendant, on vous laisse en bonne compagnie sur Canal B. À très bientôt. Au revoir.